La rencontre de la semaine.
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 Le vin fait partie de notre patrimoine, de notre culture, de notre économie et c'est aussi une émotion. Je reçois aujourd'hui dans nos studios de Roanne Sylvain Roche des Vins de Sylvain. Bonjour.
Bonjour.
Et on va aborder avec vous aujourd'hui ce métier de caviste. Tout d'abord, première question, la plus simple, comment devient-on caviste ?
Alors en l'occurrence, pour moi, c'est une passion. C'est une passion qui date, ce n'est pas mon premier métier. Pour tout expliquer, avant d'être caviste, j'exerçais notre activité. J'étais conseiller en création d'entreprise dans une chambre de métier, donc vous voyez que ça n'a rien à voir. Et pourtant, ma passion m'a rattrapé. Donc arrivé à l'âge de 35 ans, j'ai eu envie d'en vivre de cette passion. Mais c'est passé par une formation. Même s'il n'y a pas de formation obligatoire pour devenir caviste, il est quand même fortement conseillé de passer par une formation professionnalisante, sachant qu'on parle quand même d'un métier où il y a un besoin de connaissances et surtout, j'ai envie de dire, de conseils clients. Mmh. Et ça, ça passe par une formation. Alors moi, je l'ai faite à l'Université du Vin, qui est située à Suze-la-Rousse, dans le département de la Drôme, dans un très beau château médiéval. C'était très sympa.
Alors, une formation, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas, il n'est pas un vin qui vous a marqué, qui vous a plu, ou une dégustation qui a provoqué cette envie de faire ce métier.
En fait, ça date, parce que pour tout expliquer, j'ai un grand-père qui faisait du vin.
Voilà.
Comme beaucoup d'agriculteurs de la région rouennaise, il avait son petit lopin de vigne. Alors, j'étais tout petit à l'époque, mais alors, est-ce que c'est en foulant le raisin de mes pieds quand j'étais enfant que l'idée m'est montée la tête? Peut-être. Il faudrait que je fasse appel à un psychanalyste pour étudier tout ça. Mais c'est vrai que ça date. Et du coup, j'ai la chance aujourd'hui, j'ai même envie de dire le luxe de vivre de cette passion.
Alors, quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier?
Tout d'abord, une grande connaissance produit, mais encore une fois, c'est beaucoup plus facile quand on aime le produit d'en connaître, gérer tous les aspects, toutes les approches, parce qu'on est quand même sur un produit extrêmement riche. Et puis, évidemment, avoir envie de faire plaisir. Et moi, je suis ravi quand mes clients me disent qu'ils ont passé un bon moment à travers la dégustation des vins que je leur ai conseillés. Donc voilà, c'est vraiment cette approche-là, d'abord. Et puis après, il faut être aussi un chef d'entreprise, entre guillemets, parce que l'idée, c'est évidemment de faire tourner la boutique.
Voilà, ça, c'est le côté commercial. Mais avant tout, il y a un choix qui se fait, une sélection de producteurs, de vignerons. Alors, est-ce que c'est selon vos goûts, selon cette formation que vous avez faite, ou alors c'est selon les demandes de clients ici, spécialement à Roanne, ou selon une mode?
Alors moi, mon objectif, c'est d'essayer d'avoir un panel le plus large possible pour contenter un maximum de clients. En termes de sélection, en fait, on va sur beaucoup de salons professionnels. On a la chance, dans ce cadre-là, de rencontrer plein de vignerons et de vigneronnes, françaises et étrangers d'ailleurs. Et après, on essaye, dans la mesure du possible, de les rencontrer sur place. C'est-à-dire qu'on aime beaucoup aller sur le terrain, parce qu'on aime voir comment les produits sont travaillés. Donc en fait, j'essaye d'avoir un maximum de choix. Alors, répondre à des besoins particuliers, je vais être honnête, pas forcément. Je préfère faire un petit peu appel à mon instinct, et j'achète pas forcément que des vins que je boirais, mais que des vins qui sont bien travaillés.
Alors quand même, la particularité d'un caviste, c'est le conseil.
C'est ça, les gens viennent pour ça. Et ça, c'est la plus-value par rapport aux autres moyens d'acheter du vin. C'est que les gens repartent avec ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils ont envie soit de déguster, soit d'offrir. Et vraiment, c'est ce qui fera la différence principale. D'ailleurs, et c'est important de le dire, on pense souvent que chez les cavistes, que des vins haut de gamme, ce qui est complètement faux. On a évidemment des vins d'élite, entre guillemets, mais on a aussi des vins à partir de 5 ou 6 euros. Donc vraiment, on peut se faire plaisir à tous les budgets.
Est-ce que c'est possible de proposer un éventail de tout ce qui se fait en France?
Alors, c'est un petit peu compliqué, pour être honnête, parce que rien qu'en France, il y a 437 appellations dans le monde du vin, donc vous imaginez bien que c'est difficile de tout avoir. En tout cas, on a des vins représentatifs de toutes les régions françaises. Avoir tous les vins, non, c'est complètement impossible. Parfois, d'ailleurs, les gens sont surpris en demandant si j'ai telle cuvée de tel vigneron. Je leur explique, et ils le comprennent très facilement, qu'il y a 50 000 vignerons en France. Donc avoir toutes les cuvées de tous les vignerons, c'est complètement impossible.
Est-ce qu'on peut commander, sinon?
Alors, j'ai un petit peu du mal, honnêtement, à répondre à ce genre de demande, dans la mesure où, pour moi, c'est un petit peu compliqué de vendre les vins que je n'ai pas dégustés. C'est-à-dire qu'en fait, si je commande un vin pour un client qui me le ramène en me disant ça ne correspond pas à mes goûts, je vais être un petit peu embêté. Donc, je préfère dire aux gens, contactez directement le producteur pour savoir s'il a des distributeurs dans la région. Voilà, je préfère réaliser un petit peu intermédiaire dans ce cas-là, plutôt que de faire des achats.
En tout cas, le critère premier, c'est bien la qualité, même si c'est pas un vin, comme vous le disiez, que vous auriez choisi à votre table. Vous avez des critères de sélection tout de même.
On essaye de travailler avec des producteurs de vin qui respectent le terroir et qui font, dans la mesure du possible, attention à l'impact environnemental de leur production. Alors ça va évidemment aussi bien au niveau de la vigne qu'au niveau de la préparation, gérer des commandes, des bouteilles, du transport. Il y a tout un tas de critères qui vont faire en sorte qu'on va être plutôt orienté vers des producteurs de taille humaine et surtout avec lesquels on a un vrai contact, parce qu'un vin c'est aussi une histoire et nous on a la chance de côtoyer les producteurs, donc du coup on peut raconter l'histoire de leur vin.
Justement, sur cette sélection, j'y reviens. Comment vous sélectionnez ? Parce que j'imagine que les producteurs ne sont plus les vignerons d'autrefois. Et vous avez un choix. Il y a quand même un choix à faire.
Bien entendu. Alors, en fait, on déguste beaucoup. Il faut apprendre à cracher. Ça, c'est important. On déguste beaucoup. Alors, je ne sélectionne pas seul, puisque j'ai une salariée qui est Franmier, qui a une licence professionnelle dans ce métier-là, et qui est également de très bonne dégustatrice. Et du coup, à tous les deux, on essaye de faire notre sélection. Alors, et parfois, je dirais qu'on n'est pas forcément d'accord, mais il va falloir trancher. Et du coup, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. C'est vraiment sur la dégustation et le contact. Mais pour être tout à fait honnête, on travaille avec des producteurs sans forcément acheter leur vin tous les ans, parce qu'on n'est pas forcément convaincu tous les ans, sachant que les aléas climatiques que l'on connaît depuis quelques années font que parfois les vins ne sont pas comparables d'une année sur l'autre.
Alors je reviens sur la formation de la dégustation. Alors parce qu'on va en parler de la dégustation, parce que dans une autre optique, dans un autre choix de votre boutique, vous proposez aussi des dégustations à thème. Mais justement, j'imagine que c'est pas les mêmes entre l'amateur et puis vous qui avez... alors il faut un palais, il faut un nez, qu'est-ce que...
Il faut juste une envie. Moi, c'est ce que je dis à mes clients qui parfois ont un petit peu peur de participer à des soirées dégustation puisqu'ils pensent que c'est réservé à des élites, à des gens qui sont des très grands connaisseurs. Non, nous, notre seul objectif, c'est d'apprendre aux gens à se faire plaisir en dégustant du vin et de désacraliser un petit peu ce monde-là où parfois, il faut être honnête, les gens utilisent des termes tellement techniques que ça perd un peu tout le monde. Nous, notre idée, c'est simplement d'apprendre aux gens comment se faire plaisir sans être un grand connaisseur. Mais on peut être amateur sans être un grand connaisseur. Donc, les soirées dégustation que nous organisons sont vraiment ouvertes à toute personne qui est intéressée par le monde du vin et des spiritueux.
Et ça, c'est une idée que vous avez eue tout de suite quand vous avez ouvert votre boutique ici à Rouen ?
Tout à fait. En fait, l'idée, c'est que j'ai réalisé une étude de marché à l'époque, c'était en 2010, pour vérifier s'il y avait vraiment une place pour une activité supplémentaire, enfin pour une cave supplémentaire à Rouen. Et en fait, mon étude de marché n'a non seulement confirmé l'intérêt d'ouvrir une cave, mais l'intérêt pour les clients potentiels de participer à des soirées dégustation. C'est quelque chose qui existait, mais sous la forme de clubs privés et qui n'existait pas, entre guillemets, ouvert à tout le monde. Donc ça, je l'ai mis en place dès la création de l'activité en 2011. Et depuis, ça perdure. Donc c'est vrai qu'il y a, ça prouve qu'il y a une petite demande.
Oui, et il y a une demande et surtout, vous proposez un large éventail de thèmes. Quels sont donc justement ces thèmes ?
Alors, c'est extrêmement varié, vous avez raison, on a énormément de choix. Alors, on organise très souvent des soirées dégustation orientées sur une région viticole. Par exemple, au mois d'octobre, on a fait des soirées sur la Bourgogne. On organise aussi sur des spiritueux. Alors, spiritueux, ça va aller des whiskies de différents pays, écossais, japonais, américains, etc. Ça peut passer par les rhums, ça peut passer par d'autres spiritueux comme les cognacs ou les armagnacs, les vodkas. Oui, c'est extrêmement varié. On s'intéresse aussi au monde de la bière. Et puis, parfois, on organise des soirées un petit peu originales. Si je peux me permettre un exemple, au mois de janvier, on va réaliser des soirées qu'on appelle des verticales. Alors, le principe d'une verticale, c'est tout bête. Il s'agit en fait de déguster le même vin produit par le même domaine viticole, dans les mêmes conditions, mais en remontant dans le temps. Et en l'occurrence, on va faire ça avec un producteur de vin qui est situé en appellation Saint-Émilion Grand Cru. Et l'idée, c'est de commencer par déguster sa cuvée la plus récente jusqu'à la plus âgée. Ça permet de jouer sur deux paramètres assez intéressants. Il y a un paramètre climatique qui fait que d'une année sur l'autre, on l'a dit, les vins ne sont pas identiques. Et puis, il y a le paramètre de vieillissement du vin en bouteille. Et en remontant dans le temps, ça permet de voir comment les vins évoluent. Voilà, donc ça fait partie de ces soirées de dégustation un petit peu originales qui ont tendance à attirer non seulement les amateurs, mais les curieux.
Et alors, c'est bien que vous disiez ça, parce que quand vous proposez ces dégustations, vous abordez aussi, vous attachez aussi à l'histoire.
Bien entendu. Pour moi, le vin, c'est un élément qu'il faut prendre de façon complète. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas seulement une boisson, c'est un terroir. Donc, c'est-à-dire que c'est un lieu, c'est un climat, mais c'est aussi des hommes, et c'est une tradition, c'est une histoire. Et tout ça, on aime vraiment le mettre en avant. Alors, en fait, l'idée, ce n'est pas simplement de déguster des vins. L'idée, c'est de déguster aussi tout ce qu'il y a autour. et on y tient énormément.
Alors on va rentrer là dans la période du Beaujolais. Qu'est-ce que vous pensez du Beaujolais? Est-ce que vous avez une soirée Beaujolais?
Alors on a deux soirées en fait pour tout vous expliquer. Le jour de la sortie du Beaujolais nouveau, donc le jeudi 20 novembre, comme tous les ans, il y aura des bouteilles ouvertes, on va faire déguster les vins à nos clients avec quelques petites charcuteries à déguster. Donc ça c'est le petit côté convivial. Et puis on va aussi organiser un banquet à l'occasion de la sortie du Beaujolais nouveau qui sera, ça sera le lendemain, le vendredi 21 novembre. En fait, on va organiser un repas préparé par un traiteur, un bœuf bourguignon pour tout vous dire. Donc vraiment un plat adapté au Beaujolais nouveau et avec un orchestre. Enfin voilà, on va faire un espèce de banquet. Mmh. Alors pas dans notre boutique parce que le lieu n'est pas assez grand. On va faire ça chez un ami en fait. Il s'agit d'un producteur de bière qui est situé au Coteau. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle la Brasserie La Limaille.
Oui, oui,
bien sûr. Ils font des super bières et ils ont beaucoup d'espace. Et donc, comme on se connaît bien, ils nous accueillent gentiment pour cette soirée.
Alors, un mot sur le Beaujolais. C'est quand même un peu controversé depuis
quelques années. Oui, alors le Beaujolais nouveau est un petit peu controversé. Moi, j'adore la région du Beaujolais, parce qu'on y trouve vraiment des vins magnifiques. Le Beaujolais nouveau, c'est un petit peu à double tranchant, parce que beaucoup de gens en ont une vision purement industrielle, alors qu'il y a beaucoup de producteurs de Beaujolais nouveau artisanaux. Et c'est cela qu'on aime faire découvrir. Pour tout vous dire, on a fait notre sélection il y a quelques jours et on a goûté beaucoup de vins et beaucoup de vins de belle qualité. Il faut reconnaître que cette année, le millésime est un peu original dans la mesure où il a fait très chaud, enfin vous le savez. Du coup, on a moins de vins, mais on a des vins plus concentrés que des Beaujolais nouveaux classiques. Donc c'est vraiment un très joli millésime que je vous invite à découvrir à travers, j'insiste, les producteurs artisanaux.
Quelle est la plus belle rencontre que le vin vous ait offerte?
Ah, si je peux me permettre une émotion, enfin la plus grande émotion de ma vie, c'était une émotion un peu personnelle parce que souvent les gens me demandent quel vin j'ai préféré. Mais en fait, celui que j'ai préféré, c'est peut-être pas le vin le plus reconnu du monde, mais c'est celui que j'ai partagé avec des gens que j'aimais. Et pour la petite anecdote, un client m'a fait la grande joie de m'offrir un jour un vin en appellation Sauterne qui datait de 1922. Je vous laisse imaginer. Et il y a déjà quelques années de ça, et j'ai volontairement attendu le repas de Noël 2022 pour partager cette bouteille avec ma famille, en étant quasiment certain qu'au bout de 100 ans, le vin serait imbuvable. Et en fait, non. Le vin était vivant. Il avait encore beaucoup à nous dire, et j'ai eu la chance de le partager avec des gens que j'aime. Voilà.
Et aujourd'hui, avec les méthodes de vinification d'aujourd'hui, vous pensez que c'est encore possible de garder, ce serait encore possible de garder un vin aujourd'hui, si on le buvait dans 100 ans, ce serait pareil?
Je pense que certains vins sont toujours adaptés à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à conserver les vins moins longtemps parce qu'on a peut-être moins de conditions naturelles pour le faire. Donc beaucoup de producteurs de vins travaillent les vins pour qu'ils soient appréciables plus jeunes qu'il y a quelques années. Mais il y a toujours des producteurs de vins ou certains types de vins, je pense aux vins liquoreux ou je pense à des vins un petit peu originaux comme les vins jaunes du Jura, qui ont intrinsèquement, on va dire, le potentiel de garde qui permettra peut-être à des gens en 2100 ou 2150 de les déguster.
Sylvain Roche avec nous, des vins de Sylvain. Nous allons faire une petite pause musicale et nous reparlerons tout de suite après de ces soirées à thème qui sont aussi dégustation vin accompagnée de mets. Vous nous parlerez peut-être de ça, de tout ce que vous organisez encore. Tout de suite après Nicolas Perrac.
Le vin me saoule, donne-moi la main. Les bras s'enroulent, retour de terrain. Le vin m'emporte vers d'autres chemins. Ferme la porte, l'amour nous va bien. Le vin me brûle, je perds la raison. Le temps recule, il fuit la maison. Le temps s'évade, il reste tes yeux. Le temps s'attarde, rien que pour nous deux. On a toute la nuit, et tant que tu voudras, la moitié de la vie pour s'aimer. Toi et moi, je m'appelle soleil, tu t'appelles l'oiseau, tu nages dans le ciel, je te brûle la peau. Le vin me saoule, donne-moi la main, mes bras s'enroulent, retour de terrain. Le vin m'emporte chemin, la porte, l'amour nous va bien. Et dans notre prison, faite de cris de joie, il n'y a plus de saison, plus de peur, plus de froid. Et dans notre désert, où tout n'est que soleil, il n'y a qu'un été qui nous semble éternel. Le vin me souffle, donne-moi la main. Les bras s'enroulent autour de tes reins. Le vin m'emporte vers d'autres chemins. Ferme la porte, le temps recule, il fuit la maison, le temps s'évade.
De retour sur RVR avec mon invité aujourd'hui Sylvain Roche des Vins de Sylvain. Nous parlons donc du métier de caviste et des dégustations également, dégustations à thème parfois, donc lors de soirées que vous organisez dans votre boutique, alors de vins spiritueux. Et j'imagine qu'on ne déguste pas de la même façon un vin qu'un whisky ou un rhum.
Oui, tout à fait. L'approche est un petit peu différente dans la mesure où déjà dans les spiritueux, vous avez au moins trois fois plus d'alcool que dans le vin. Parce que la plupart des spiritueux sont au moins à 40% d'alcool. Donc en fait, l'approche est un petit peu différente. Il y a des techniques de dégustation qui permettent d'apprécier le produit sans être entre guillemets agressé par l'alcool. Et c'est vrai que souvent, les gens redécouvrent ce genre de produits en apprenant à les déguster comme on leur montre. Oui.
Et alors, les déguster dans des verres différents, parce qu'on voit dans votre boutique, hein, vous vendez aussi des carafes, des verres, voilà. Et parlez-nous aussi de cet accord mets, vin.
Oui, tout à fait.
Alors, ou mets, alcool fort.
Complètement. Pendant ces soirées de dégustation, il y a systématiquement des accords à manger. Et en fait, on utilise un autre rayon épicerie fine pour proposer des petits accompagnements. Alors évidemment, ce n'est pas des grands repas gastronomiques, mais il y a toujours une approche accord. C'est-à-dire que ça fait partie un petit peu de notre quotidien. Les gens ont tendance à nous demander avec quel vin on pourrait accompagner un plat. Et du coup, on se sert de ces soirées dégustation pour leur montrer des exemples. Alors, ça reste à chaque fois uniquement des suggestions qu'on argumente. On essaie d'expliquer pourquoi on peut être amené à proposer tel type de plat avec tel type de vin, voire tel type de spiritueux, parce que même si ce n'est pas trop dans notre culture française, on peut tout à fait imaginer des accords avec des whisky ou des rhums, par exemple.
Mmh. Alors, parlez-nous du whisky, par exemple. En gros, comment vous abordez ce thème ? D'abord, l'histoire.
On passe par l'histoire, parce que...
Je le dis, hein, c'est quand même... c'est presque une conférence gesticulée, théâtralisée que vous proposez.
Je ne sais pas si on peut parler de conférence, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup aborder cette thématique-là, parce que, encore une fois, dans notre culture française, On connaît relativement bien le vin, mais on connaît assez mal les spiritueux. Et du coup, on commence par la base, c'est-à-dire d'où vient, par exemple, le whisky. Hein, on apprend aux gens, par exemple, que ça a été créé par des Mésopotamiens. Et du coup, c'est eux qui ont appris à distiller la céréale, que c'est passé par l'étape d'une bière. Enfin, on explique un petit peu d'où viennent ces produits, ce qui permet aussi de comprendre leur goût. En grande partie, par exemple, l'usage du tonneau qui date du Moyen-Âge, qui est relativement récent, et qui explique aussi pourquoi aujourd'hui ce genre de spiritueux permet d'avoir à la fois le goût de l'eau de vie de céréales et à la fois le goût de la maturation, comme on dit, en tonneau. Mmh. Donc cette approche-là est importante, et puis ça permet aussi d'expliquer un petit peu comment on fait les produits. Alors ça, on y tient beaucoup, parce que si on veut se retrouver dans le monde des whisky ou des rhums, par exemple, qui est un monde quand même extrêmement riche, c'est important à la base de savoir comment les produits sont fabriqués. Et on pense aux gens qui vont, par exemple, visiter des distilleries, parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de distilleries à visiter. C'est important à nos yeux qu'ils connaissent la fabrication avant pour pouvoir bien appréhender le produit.
Alors, cette histoire de tonneau, elle est importante aussi pour le rhum.
Bien entendu. Mm-hmm. Bien entendu, et même le rhum, c'est un produit qui a une histoire extrêmement originale, parce qu'à la base, le rhum a été produit à partir de mélasse. Le mélasse, c'est ce qui restait une fois qu'on extrayait le sucre de la canne à sucre. Et malheureusement, c'est aussi l'histoire de l'esclavage. Et du coup, la mélasse était donnée à manger aux esclaves, parce qu'on peut se nourrir de la mélasse. Et c'est les esclaves du côté du Brésil, en 1600, qui auraient appris à faire fermenter la mélasse et la distiller pour en faire de l'eau de vie. Donc le rhum a une histoire extrêmement originale, contrairement au whisky, qui c'est une histoire historique. Enfin, historiquement, le whisky, ça date d'il y a 8000 ans. Le rhum, ça date d'il y a 420 ans. C'est relativement récent.
Mmh. Et puis, il y a une tendance aussi, ces dernières années. Alors, peut-être qu'on boit moins, mais on boit mieux, et on a redécouvert. On a même redécouvert le whisky, on peut dire. Avec, on ne pensait pas au Japon, à des pays comme ça, même pour le rhum, qui produisent...
Complètement. Il y a un vrai phénomène. Alors, le whisky, ça fait maintenant 40-50 ans qu'on redécouvre les whiskies artisanaux. Mmh. Au niveau du rhum, c'est beaucoup plus récent, ça fait à peu près 20-25 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un marché qui s'ouvre au niveau des rhums, c'est assez impressionnant. C'est devenu le troisième spiritueux le plus consommé en France, après les whiskies et les anisés. Et du coup, aujourd'hui, on voit à travers le monde, parce que ce n'est pas un phénomène purement national, on voit à travers le monde se créer des distilleries produisant du rhum. Il suffit en gros d'avoir le climat qui permet de faire pousser de la canne à sucre et les climats tropicaux qui permettent de faire pousser de la canne à sucre à travers le monde. Il y en a de plus en plus à cause du dérèglement climatique. Et je pense, pour vous donner un exemple, à un pays comme le Japon, qu'on connaît désormais pour les whiskies depuis 100 ans, mais qui s'est ouvert au monde du rhum il y a seulement une vingtaine d'années. Et tout au sud du Japon, par exemple dans l'archipel d'Okinawa, on a le climat qui permet de produire des rhums purement locaux.
Mmh. Alors un mot sur comment a évolué le goût du public. Hein. Donc je le disais, on boit moins, encore que vous avez peut-être des chiffres précis.
On a des chiffres sur la consommation de vin relativement précis qui nous indiquent qu'au début du XXe siècle, par exemple, la consommation moyenne par habitant, c'était 150 litres. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Mmh. On ne buvait pas les mêmes vins qu'on boit aujourd'hui. Le vin était aussi une boisson pour les travaux de force. Je pense par exemple aux mineurs à Saint-Étienne qui buvaient beaucoup de vin, ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient forcément alcooliques.
Ils faisaient combien de degrés à cette époque?
Ils faisaient entre 8 et 10 degrés en moyenne. Hein. Mm-hmm. Et du coup, il faut imaginer aussi que le choix en termes de boisson était relativement limité il y a 100 ou 120 ans. Et même plus récemment, moi je me rappelle quand j'étais petit, chez mes grands-parents, on buvait un petit peu de vin dans la soupe, on faisait chabrot, ou on mettait un petit peu de vin dans un verre avec de l'eau et du sucre. C'est comme ça qu'on apprenait à goûter le vin, parce qu'on n'avait pas toutes les boissons qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui on en est à une consommation qui tourne autour de 40 litres par habitant en France. Nous ne sommes plus du coup les premiers consommateurs de vin par habitant, c'est désormais les Américains qui sont devant nous. Donc on a une tendance à consommer moins en quantité, mais mieux en qualité. Et c'est pour ça que je pense que mon métier a toute sa place dans ce contexte-là. Mmh,
Et en production, on est placé comment ?
En production, c'est relativement fluctuant parce que le climat fait que. Il se trouve que la France, on est les deuxièmes producteurs de vin après l'Italie. Alors, il est arrivé qu'on repasse devant eux, mais c'est relativement rare. On est sur une moyenne de 40 millions d'hectolitres par an, sachant que les Italiens produisent autour de 45 millions. Mais cette année, à cause des problèmes climatiques qu'on a eus, on sera plutôt autour de 35-36 millions d'hectolitres. Mmh.
Et pour ce qui est de la production, alors on en parle aussi, des vins nature, des vins biodynamiques, ça prend de l'importance ou justement ça redescend là, comme...
ça prend un petit peu d'importance. Non, il faut reconnaître que les producteurs de vins qui cherchent à respecter au maximum leur terre, il y en a de plus en plus. Donc nous, on le sent, on le voit, à la fois de la part des producteurs et de la part des consommateurs. Donc on est très sensible à ce sujet-là. On en déguste beaucoup de vins nature ou biodynamiques. On n'est pas toujours convaincu, mais comme on n'est pas toujours convaincu sur des vins plus traditionnels, donc on a aussi dans notre gamme ce genre de vin. Alors, est-ce que c'est un phénomène qui va se développer? Je ne sais pas trop. Mais il y a quand même quelques années qu'il est en place et il commence à être bien ancré.
Et alors, on parlait du degré, donc des vins 8 degrés, 10 degrés au début du siècle. Et alors aujourd'hui, on voit que les vins sont de plus en plus alcoolisés. Alors, c'est du fait du changement climatique. Ça va s'arrêter où, ça?
Alors, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais en fait, ce dont on est sûr, c'est que le vin subit les conséquences directes du dérèglement climatique. Il y a deux éléments qui permettent de s'en rendre compte relativement facilement. Vous l'avez cité, c'est l'augmentation du taux d'alcool. C'est relativement simple à comprendre. Le phénomène de la photosynthèse fait que les feuilles des vignes vont alimenter un petit peu plus en sucre les raisins. Et comme vous le savez, c'est le sucre qui devient du vin et qui transforme le jus de raisin en alcool. Donc du coup, on aura plus d'alcool dans les vins. Donc les producteurs essayent de s'en prémunir de différentes façons, on pourra en parler si vous le souhaitez. Et le deuxième phénomène qui est relativement important, c'est l'avancée des dates de vendange. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ça ne surprend plus personne quand on vendange au mois d'août. Rappelons-nous, les anciens s'en rappelleront peut-être, dans les années 60, on vendangeait en octobre. Donc les dates de vendange ont été avancées d'environ un mois en 60 ans, ce qui est quand même assez énorme.
Et des vignes arrachées dans le Bordelais, et peut-être un peu aussi ailleurs.
Oui, malheureusement, oui, aujourd'hui, cette surproduction fait que il faut évidemment trouver des solutions. Donc vous avez des zones dans le Bordelais, dans le Languedoc, mais aussi dans d'autres régions viticoles qui ont subi des arrachages. Oui, c'est un petit peu un crève-cœur quand on est producteur de vin et qu'on doit en passer par là, parce qu'il faut que, ça reste une activité rentable. Et donc, si on n'arrive plus à vendre ses vins, il faut trouver des solutions. Donc aujourd'hui, l'Europe finance un petit peu des zones d'arrachage. Donc, en espérant que ce phénomène-là trouvera son équilibre, parce que c'est toujours compliqué de voir des gens travailler leur terre pendant des décennies, avoir hérité de leur terre par leurs parents ou grands-parents et devoir arriver à un moment arracher leur vigne. Mais bon, il faut que ce soit une activité qui reste rentable.
Mmh. Et justement, sur ces vins qui font aujourd'hui facilement 14-15 degrés, ça, on vous fait remarquer, c'est trop fort, moi je viens, je voudrais un vin un peu moins fort.
Effectivement, on a parfois la remarque, mais moi j'ai tendance à réagir de la façon suivante. Comme on a la chance de goûter beaucoup de vins dans notre métier. En fait, je fais attention à ne pas regarder le taux d'alcool avant de déguster un vin, au risque d'être influencé. Et il m'arrive de temps en temps d'être un peu gêné par l'alcool dans le vin que je déguste. Et lorsque je vérifie le taux d'alcool, je m'aperçois qu'il a 12,5 ou 13, ce qui n'est pas forcément beaucoup. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on a un déséquilibre dans le vin. À l'inverse, ce qui m'arrive de plus en plus souvent, c'est de déguster un vin sans être gêné par l'effet de l'alcool. Et après vérification, il y a 14,5 ou 15. Donc en fait, tout l'art des producteurs de vin, c'est aussi d'intégrer l'alcool dans l'ensemble du vin, pour faire en sorte qu'il ne soit pas dominant. Il n'empêche qu'il y a quand même un phénomène général d'augmentation et que forcément, qu'on le sente ou pas, je dirais, il y a un impact physique sur la personne qui déguste le vin. Donc, il faut quand même rester prudent sur la consommation.
Mmh. Et là, et les tendances sur les rosés, les vins blancs, comment ça...
Alors, au niveau du vin blanc, il y a une vraie tendance. Mmh. C'est vrai que c'est un phénomène qui est relativement récent puisque pendant pas mal d'années, la production de vin blanc a chuté au profit du rosé. Et c'est vrai que les derniers chiffres qui datent d'il y a 5-6 ans nous indiquaient par exemple qu'on avait une production d'environ 20% de rosé et 15% de vin blanc en France. Mais le phénomène s'inverse. Aujourd'hui, les vins blancs reviennent un petit peu sur le devant de la scène, en partie grâce en fait à un autre phénomène qui consiste à déguster de plus en plus souvent du vin blanc à l'apéritif. Aujourd'hui, la consommation d'apéritifs forts, genre whisky ou rhum ou anisé par exemple, c'est un petit peu moins courant. Et du coup, aujourd'hui, les gens font attention évidemment à leur consommation. Et on voit que le vin revient sur le devant de la scène au niveau de l'apéritif. Et c'est au profit du vin blanc.
Et des vins, alors blancs ou rouges pétillants, peut-être?
Oui, les effervescents, effectivement, il y a une vraie croissance aussi au niveau des effervescents. Alors le champagne domine toujours plus ou moins le marché, mais aujourd'hui, il y a quand même des effervescents de très grande qualité dans beaucoup de régions françaises. Et je pense aux créments, par exemple, de Bourgogne ou de Loire ou du Jura. Et donc, il y a aussi effectivement un impact en termes de coût d'achat, parce que le champagne, que j'adore évidemment, c'est forcément un petit peu plus cher que les créments. Mmh. Et du coup, les gens font attention à leur porte-monnaie. On peut aujourd'hui trouver des créments de très belle qualité, des tarifs, on va dire, plus ou moins entre 10 et 15 euros.
Alors un mot pour finir sur notre côte rouennaise. Alors je ne sais pas si vous avez des clients de l'extérieur, de passage à Rouen. Est-ce qu'il y a une demande que, parlez-nous de ça.
Alors j'en suis ravi parce qu'on a la chance d'accueillir notamment des gens de passage, des touristes, et qui nous demandent à pouvoir découvrir les vins de la côte rouennaise. Donc ça c'est un phénomène qui est vraiment relativement récent, il faut être tout à fait honnête. Et on en est ravi. Il y a de plus en plus de gens qui veulent... repartir de chez eux avec quelques bouteilles de la côte rouennaise, donc on essaye de les guider au mieux. Et un autre phénomène qui nous fait plaisir, mais auquel on tient beaucoup, c'est que les Rouennais, quand ils se déplacent, font découvrir leur vin. Et ça aussi, ça c'est vraiment quelque chose de relativement récent. Les gens sont fiers de leur vin. Mmh. Et moi, ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai à cœur de défendre nos bons producteurs locaux. Donc les gens qui partent dans d'autres régions françaises, voire à l'étranger, essayent, dans la mesure du possible, d'emmener quelques bouteilles de la côte rouennaise.
Alors, comment vous présentez-vous cette côte rouennaise? Alors, on parle aussi de Loire volcanique aujourd'hui. On essaie de la faire connaître et de faire connaître le département.
C'est pas facile. Non, c'est pas simple, parce qu'imaginez, on a dit 437 appellations en France. La côte rouennaise, c'est 210 hectares sur un total de 720 000 en France. Donc, exister Quand on a un petit vignoble, c'est pas forcément simple. Et les producteurs de la Côte Rouennaise ont eu la très belle idée de s'associer avec ceux de Saint-Pourçain et de Côte-du-Forêt pour créer donc la fameuse association Loire Volcanique. Et c'est un moyen de fédérer, de se fédérer pour pouvoir se défendre. Et donc moi, j'aime bien effectivement les présenter, surtout présenter leurs caractéristiques locales. Et en fait, c'est en montrant ce qu'on a de différent qu'on va pouvoir se mettre en avant. Et des particularités locales, on en a. Le fameux cépage Gamay Saint-Romain, par exemple. Ou le fait de travailler les vignes un petit peu en altitude. Et donc tout ça, ça permet d'avoir des vins sur le fruit très gourmands, avec une belle fraîcheur. Et ça, ça fait partie des vins qu'on va pouvoir apprécier dès l'apéritif. Là aussi, on a un phénomène assez intéressant. C'est que non seulement on déguste de plus en plus souvent du vin à l'apéritif, mais je remarque depuis quelques années de plus en plus souvent de vin rouge. Et les vrais, les bons Côte-Rouennaises, les grands Côte-Rouennaises ont un très très beau rôle à jouer à ce niveau-là.
Sans vouloir vous faire des ennemis, mais vous pouvez donner quelques noms de producteurs que vous avez dans votre boutique, tout
oui,
simplement.
Oui, alors bon, évidemment qu'on apprécie tous les producteurs, mais on ne peut pas travailler avec tout le monde. Donc nous, on aime beaucoup travailler avec un peu les locomotives, qui sont le domaine de Sérol ou le domaine des potiers. Mais on aime beaucoup aussi mettre en avant des domaines de taille plus confidentielle. Je pense par exemple à Florentinon à Villemonté ou à Thierry Bonneton à Saint-André-d'Apchon. Donc on a la chance aussi, il faut le reconnaître, d'avoir plus de la moitié de nos vignes qui sont en agriculture biologique. Donc il y a un vrai soin apporté au travail de la terre. Et nous, on essaye aussi de valoriser ceux qui ont cette ambition-là.
Qu'est-ce que vous vendez le plus dans votre boutique? Qu'est-ce qui est le cépage ou le terroir Alors, plus demandé dans les vins rouges?
Dans les vins rouges, on va vendre. La région qu'on vend le plus, c'est la vallée du Rhône. C'est la vallée du Rhône. Alors, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que beaucoup de nos clients nous disent que on n'est jamais déçu avec les vins de la vallée du Rhône. C'est vrai que c'est, peut-être qu'on ne dit pas ça dans d'autres régions viticoles. Et moi, parfois, ça me surprend quand j'entends un peu ça. Alors voilà, c'est ce qu'on vend le plus. À peu près un quart.
Après, c'est très, très, très large. Hein,
quand on parle de la vallée du Rhône.
Ça va de Condrieux jusqu'à Aix-en-Provence.
À peu près, effectivement. Voilà. Et notamment un petit bout dans notre département, d'ailleurs. Puisqu'on a un petit peu de vignes en appellation Saint-Joseph et notamment à Condrieux. Donc, c'est vrai que la vallée du Rhône, c'est le premier vignoble qu'on vend le plus. Après, c'est la Bourgogne. Finalement, des vignobles relativement proches de nous.
Et on n'a pas parlé des bières, mais ça aussi, ça fait partie de votre formation, la
complètement,
bière.
Oui. Complètement. Et là, on a aussi un vrai phénomène, non seulement en France, mais un phénomène mondial. Je pense que chacun aura remarqué qu'il existe de plus en plus de brasseries artisanales autour de nous. Et ce phénomène qu'on appelle la révolution micro-brassicole, pardon, c'est un phénomène qui veut qu'à partir des années 70, c'est né aux États-Unis, ce phénomène-là, on a voulu se détourner un petit peu des producteurs de bière qui étaient purement des producteurs industriels, qu'on connaît aussi en France, pour redécouvrir les bières artisanales. Et ce phénomène est arrivé en France un peu au début des années 2000. Et voilà, remarquez tous le nombre de brasseries artisanales qui s'est créé autour de vous. Rien qu'en dans le département de la Loire, je crois qu'on a dépassé les 15 brasseries. Donc je vous invite, moi, à les rencontrer, ces brasseurs. C'est des gens passionnés, donc ce sont des gens passionnants. Et puis ça permet de faire vivre les producteurs locaux.
Eh bien, Sylvain Roche avec nous, donc un métier à découvrir. Vous avez des jeunes, des apprentis qui viennent ou des stagiaires qui veulent se lancer?
On a régulièrement des stagiaires, effectivement. Et j'ai déjà formé plusieurs personnes en apprentissage. Donc il faut absolument que les jeunes s'intéressent à ce métier, qui est un métier d'avenir. Donc d'ailleurs, je lance un appel, si certains sont intéressés pour suivre une formation, nous on accueille avec grand plaisir les gens qui sont motivés.
Voilà, vous avez des places. Donc, et puis j'imagine beaucoup de travail avant les fêtes de fin d'année, alors avant le Beaujolais, donc c'est le prochain rendez-vous, là, vos soirées et vos banquets, et puis tout au long de l'année, et vous avez peut-être un site?
Oui, on a un site internet, effectivement, c'est www.lesvinsdesylvain.fr.
Où on retrouve tout le calendrier.
Tout le calendrier, effectivement, puis on peut nous suivre sur les réseaux sociaux également.
Eh bien, merci Sylvain Roche d'avoir partagé cette passion du vin. Une anecdote qui vous vient lors d'une dégustation avec des clients ou...
Quelle anecdote je pourrais... Alors, si, j'en ai une récemment qui m'a vraiment beaucoup touché. C'est un monsieur qui est venu avec son fils et son petit-fils pour assister ensemble à une dégustation. Le grand-père avait l'habitude de venir. Il a fait découvrir ça à son fils qui lui-même est venu avec son enfant. Donc j'ai eu trois générations récemment dans la même soirée. C'était plutôt sympa. Voilà.
Merci et à une prochaine fois sur RV.
À bientôt. Merci beaucoup.
C'était Sylvain Roche des Vins de Sylvain, une émission à retrouver en podcast sur notre site rvrradio.fr.
C'était la rencontre de la semaine.
C'était la rencontre de la semaine.